Ce matin, on poursuit notre série « Servir pour aimer » et je vous fais un petit récapitulatif très rapide. On en est déjà à notre troisième exposé. Premier exposé, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Écoutez, on a vu un des aspects les plus uniques du christianisme. On appelait ça le Dieu serviteur. Le christianisme est unique en ce sens que Dieu nous révèle dans sa parole qu'il s'est fait serviteur en s'incarnant dans la personne de son Fils. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et donc, c'est comme ça qu'on est sauvé, c'est comme ça qu'on est racheté. Dieu s'est fait serviteur pour notre salut. Il est mort sur la croix, la mort la plus honteuse qu'on pouvait imaginer à l'époque. Et ça, c'est unique à Jésus. Mais le christianisme est aussi unique dans le fait que, les chrétiens, Jésus est notre inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous être un chrétien? C'est adopter l'attitude d'un serviteur comme Jésus-Christ lui-même s'est fait serviteur. Deuxième exposé la semaine dernière avec Michel, avec le pasteur Michel, on a vu aimer et servir dans les Écritures puisque Christ nous a aimés en nous servant. Bien, pour nous, aimer les chrétiens, là, ça veut souvent dire, beaucoup dire, servir. Et comme on a vu avec Michel la semaine dernière, bien, pour un chrétien, il n'y a pas de tâche trop basse parce que notre identité ne repose pas dans les tâches qu'on a à faire. Quelqu'un me demande d'aller le servir, puis là, je dis « Ah, c'est indigne de moi ». Non, mon identité ne réside pas là. Mon identité se trouve dans l'amour que Jésus-Christ a eu pour moi. Je suis chrétien. Je suis, comme Michel l'a dit la semaine dernière, je suis big en Jésus-Christ. Mon identité est définie. Et donc, je peux servir, ça ne m'affecte pas. Pour certains, ça serait de les diminuer, de leur demander de servir. Pour un chrétien, ce n'est pas le cas si mon identité est bien connue en Jésus-Christ. Et enfin, on arrive au troisième exposé, doué pour servir. Dieu ne nous envoie pas servir sans nous équiper pour le service. Et là, vous pensez peut-être à différents passages. Si vous êtes familier avec la Bible, vous allez peut-être être surpris ce matin comment Dieu nous a doués pour le servir. À l'Église de l'Espoir, notre vision, ce que nous désirons être comme Église. On n'est pas là, on n'est pas parfait, mais on cherche à grandir. Notre vision, c'est quoi? C'est être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Voyez-vous, émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, Jésus qui lui-même s'est fait serviteur, et on s'en va servir à notre tour, l'Église, les gens autour, faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu ne vis pas quotidiennement, j'ai dit ça au premier exposé de la série, si tu ne vis pas quotidiennement comme un serviteur de Dieu et des gens que Dieu place autour de toi, mais si au contraire, tu t'attends à ce qu'on te serve, cette série pourrait changer ta vie à jamais pour la gloire de Dieu et pour ton plus grand bonheur. Puis ce matin, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Si tu ne vis pas quotidiennement comme serviteur, tu te prives de joies merveilleuses. Je vais plus loin que ça. Tu ne comprends pas vraiment ce que c'est être un chrétien. Tu ne comprends pas complètement l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu ne vis pas tous les jours comme un serviteur. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te révéler cela ce matin. Dieu veut te faire connaître les gloires et les grâces d'être un serviteur. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter deux passages. On va se promener un peu dans les Écritures ce matin. Caroline va venir nous lire deux passages ce matin. On va dans la prière. Seigneur Jésus, c'est la fête de l'Action de grâce. On veut te rendre grâce pour ton amour pour nous. Ton amour au Père, parce que tu as créé les cieux et la terre, tu as créé les hommes, tu as créé les femmes, tu as créé la nature, les animaux. Ta création est merveilleuse, Seigneur. Et puisqu'on vit ici dans ce pays d'abondance, Seigneur, nous en jouissons à tous les jours. Mais Seigneur, nous voulons être reconnaissants et te remercier d'abord et avant tout pour Jésus-Christ. De ce que tu es venu, Jésus, tu t'es incarné, tu t'es fait homme, tu as donné ta vie sur la croix pour nos péchés, afin que nous qui étions étrangers de Dieu, nous soyons admis dans la famille de Dieu, Seigneur. Par le pardon de nos péchés. Seigneur, je te demande de venir nous parler ce matin de cette identité glorieuse que nous avons en toi qui nous amène à être des serviteurs de Dieu. Et viens, Seigneur, nous montrer comment nous pouvons nous appuyer sur ta grâce pour entrer dans ce service. Viens nous montrer combien nous ne sommes pas seuls, combien tu nous as équipés pour te servir, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bon matin. Alors, ce matin, on va lire dans Ésaïe, chapitre 42, les versets 1 à 4, et Actes, chapitre 1, versets 8 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, et Actes, chapitre 1, versets 8 à 11. Donc, Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, et il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se le relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Donc, Actes 1, 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé, élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Merci Caroline. Question pour vous, quand vous pensez au mot « service » ou « serviteur », est-ce que c'est quelque chose d'heureux qui vous vient à l'esprit? Je vais le dire autrement. Quand vous pensez au mot « service » ou « serviteur », est-ce que vous associez ça spontanément à une corvée ou à une identité? Spontanément. Corvée ou identité pour les mots « service » et « serviteur ». Restez avec moi. Comme chrétien, notre espérance, notre plus grande espérance, c'est d'être réunis avec Christ pour l'éternité dans un monde où on va être libéré de la souffrance. On va être libéré du péché, de la tentation de péché. On va être libéré de la mort et de la maladie. C'est ça notre espérance. On attend ce jour où on va être réunis avec lui. Et même la Bible nous dit où travailler ne sera pas difficile comme ici. Parce que ça fait partie de cette malédiction que Dieu prononce sur la terre, parce que le travail devient ardu. Il y a des terres qui ne sont pas propices à nous donner ce qu'on a besoin pour manger. Et donc, on attend après ce jour où on va être libéré. Alors, si je vous dis « serviteur », est-ce que vous associez ça avec notre vie ici sur terre? Ou est-ce que vous l'associez à l'éternité? Écoutez bien ce passage dans le dernier chapitre de la Bible, le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse qui nous donne une vision de l'éternité qui nous est réservée. Dans Apocalypse 22, versets 3 à 5, on lit ceci, « Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de malédiction. » Tout ce qui est lié à la malédiction de Dieu sur la terre va être enlevé, donc plus de souffrance. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Intéressant, hein? On est en train de regarder l'éternité. Ce matin, mon ambition, c'est d'associer trois mots ensemble dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre vision de ce que c'est être un chrétien, mais aussi dans votre cœur, dans votre âme, qu'on puisse associer les mots « serviteur », »,« éternité » et « glorieux ». Parce qu'il nous est dit qu'on va être serviteur dans l'éternité, il nous est aussi dit que nous allons régner avec Dieu. Donc, mon ambition, c'est qu'on puisse associer ces trois mots-là, que ça devienne limpide dans notre tête, « serviteur », »,« éternité » et « glorieux ». Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Dieu nous a doués de son Esprit Saint, de dons, de talents, de ressources pour que notre service soit glorieux. Je répète ça, Dieu nous a doués de son Esprit Saint, de dons, de talents, de ressources pour que notre service soit glorieux. Alors, premièrement, serviteur glorieux. Il n'y aura plus d'anathème. Apocalypse 22, j'y retourne, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est clair dans les Écritures, les chrétiens vont être des serviteurs pour l'éternité. Pour l'éternité, on va être des serviteurs, ça va être dans notre identité. Je crois qu'un des éléments essentiels qui a été perdu dans la culture aujourd'hui, au moins en Occident, puis un peu dans l'Église aussi, parce que l'Église n'est jamais imperméable à ce qui se passe dans la culture. Des fois, c'est heureux, des fois, c'est malheureux. Vous savez qu'il y a déjà eu des chrétiens qui avaient des esclaves en Occident, même en Amérique. Puis à un certain moment donné, tout le monde s'est réveillé, et les chrétiens et les autres, puis on a dit non, ça ne fonctionne pas cette affaire-là. Donc c'est heureux, tu sais, qu'aujourd'hui, on n'ait pas l'Église en Amérique qui aurait des esclaves, parce qu'on dit non, nous autres, on est imperméables à la culture. La culture change, mais nous, on ne changera pas. Au contraire, les chrétiens ont été même des agents de transformation dans cette culture-là. Donc l'Église n'est pas imperméable au changement qu'il y a dans la culture, mais toujours l'Église doit aller regarder dans les Écritures, est-ce que c'est bienvenu ou est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est selon la pensée de Dieu ou est-ce que ça ne l'est pas? Je pense qu'une des choses que nous avons perdues, spécialement en Occident, dans l'Église aussi, c'est cette vision très, très noble du service, de se mettre au service. Ce n'est pas que ce n'est pas présent dans notre culture, c'est encore là. Mais je crois que cette idée-là de dire que je suis au service de quelqu'un, on a tendance à voir ça comme quelque chose qui nous diminue. Qui diminue notre valeur, qui nous dévalue à nos propres yeux ou qui nous dévaluerait aux yeux des autres. Notre société individualiste va avoir plutôt tendance à valoriser l'idée d'être maître de ta vie. Tu veux être au contrôle de ta destinée. L'idée de serviteur est réductrice, on ne se sent pas bien dans ça. Puis Michel l'a bien expliqué la semaine dernière, il nous a dit « Oui, mais comme chrétien, si mon identité est en Jésus-Christ, ce n'est pas réducteur pour moi d'aller servir. À la limite, je suis juste en train d'imiter Christ. » Et pourtant, je pense que l'Église est quand même affectée par cette pensée-là. Aujourd'hui, c'est plutôt l'idée d'être maître de notre destinée qui compte à nos yeux. C'est ça qui est mis de l'avant. Chacun veut prendre en charge son destin. Et s'il y a une place où c'est vrai sur la terre, c'est en Occident. C'est là que cette idée-là est la plus forte, la plus présente. Pourtant, la Bible nous enseigne au contraire que l'être le plus bienveillant de l'univers, Dieu, est le seul qui est vraiment au contrôle de ton destin. C'est ça que la Bible enseigne. Si vous êtes familier avec les Écritures, la Bible est très claire. Je veux dire, tu as des choix à faire, tu as des choses à prendre en main. Dieu ne va pas venir faire ton lit à ta place, là. Oublie ça. C'est à toi de faire ton lit. C'est à toi de gérer tes finances. C'est à toi d'aller sortir pour aller travailler. Mais à la fin de la journée puis à la fin de ta vie, tu n'es pas vraiment au contrôle de ton destin, de ta destinée. Il y a tellement de choses qui relèvent de la providence divine, que ce soit dans ta santé, dans un boulot, dans des tendances économiques comme on est en train de les vivre ici. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui sent qu'il est au contrôle de l'économie actuelle ou de l'inflation, n'est-ce pas? Même les gouvernements n'arrivent pas à le contrôler. À la fin de la journée, à la fin de notre vie, une seule personne est au contrôle de notre destinée et c'est Dieu. C'est Dieu à la fin. J'ai des choix à faire, je vais être responsable, c'est Dieu qui est souverain. Laissez-moi vous parler un instant d'une personne qui se croit au contrôle de son destin. Je vais peut-être vous surprendre un peu ce matin. Il s'agit de Satan. Satan croit aussi être maître de sa destinée. Saviez-vous ça? Dans la Bible, il n'y a pas seulement les êtres humains qui sont des êtres intelligents, il n'y a pas seulement Dieu, il y a des anges, il y a des êtres spirituels et il y a des anges déchus. Satan, avant de se rebeller contre Dieu, était le plus grand serviteur de Dieu. C'était le serviteur de Dieu, celui qui inspirait tous les serviteurs de Dieu, tous les anges, à servir Dieu. Mais à un certain moment donné, il s'est mis en tête qu'il pouvait se faire l'égal de Dieu, s'émanciper de Dieu et prendre en main sa destinée. C'est un petit peu une joke, parce que Satan, à l'époque où il a pris cette décision-là, vivait dans un univers qui a été créé par Dieu. Donc, Satan est toujours chez Dieu. T'sais? Il n'est pas dans son univers propre. Nous vivons tous dans l'univers de notre Créateur, du Dieu qui a créé les cieux et la terre. On va toujours être chez lui, pas tout à fait chez nous. On est dans son univers à lui. Mais Satan, même s'il a été jugé par Dieu, a été condamné par Dieu, j'y vais un peu vite, je ne veux pas aller voir trop de passages sur ce sujet-là ce matin, parce qu'on a d'autres passages à voir, mais la Bible nous dit que Dieu l'a maudit, Dieu l'a frappé, on lui a retiré sa position qu'il avait, il a été chassé loin de la face de Dieu, et une partie des anges l'ont suivi. Maintenant, dans sa chute, est-ce que Satan s'est dit, « Ah, OK, j'ai compris, je ne peux pas prendre le contrôle de ma destinée, tu sais, je pensais, puis là, Dieu m'a eu. » Fait que, tu sais, je me repens. Non, pas en tout. Non, non. En fait, même les Écritures nous disent que lorsque Jésus s'est incarné, le diable a essayé de le tenter. Le diable a essayé de le tenter en lui disant, « Deviens mon disciple. Adore-moi, puis je vais te donner tous ces royaumes. » C'est comme une joke, tu sais. Satan peut donner des royaumes à Jésus. Jésus, c'est Dieu, le Fils, qui vient sur la terre. Je ne sais pas quelle lubie il y avait. Je ne sais même pas comment il faisait pour avoir un fantasme semblable qui pourrait dévier le Fils de Dieu, Dieu le Fils, et lui donner des royaumes qu'il ne possède même pas, parce qu'il est toujours dans l'univers de Dieu, vous comprenez? Maintenant, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais en vous montrant combien c'est ridicule pour l'ennemi juré de Dieu, Satan, de penser qu'il va vraiment prendre le contrôle de sa destinée, je suis aussi en train de vous parler de chacun de nous. Parce que si Satan ne pouvait pas réussir ce coup-là, je ne suis pas sûr que vous êtes en mesure de le faire non plus, ou moi-même. Il y a un passage, je vais vous le lire rapidement, puis bon, ben, ça va toucher les âmes poétiques. Les autres vont dire, « Ah, c'est toujours bizarre la poésie. » S'il y en a qui ont déjà lu Paradise Lost, Le paradis perdu de John Milton, il y a un moment vraiment extraordinaire où Satan est défait, lui et toutes ses troupes sont brisées, puis là, il voit ses troupes qui sont dévastées parce que Dieu les a châtiées, puis là, il se dit, ça leur prend un pep talk, tu sais. Il va falloir vraiment que je leur donne du courage. Puis là, il commence à s'adresser à ses troupes. Et il dit ceci, « Tout n'est pas perdu. La volonté invincible et l'étude de la vengeance, la haine immortelle et le courage de ne jamais se soumettre ou céder. Et quoi d'autre pourrait-il vaincre? Cette gloire que jamais sa colère ou sa puissance ne m'arrachera jamais. » Et ce que Satan est en train de dire, il dit, « Ce qu'il me reste, c'est la rébellion. Jamais je vais me soumettre. » Et malheureusement pour lui, c'est tout ce qu'il lui reste. C'est tout ce qu'il lui reste. Si vous connaissez les Saintes Écritures, si vous connaissez le livre de l'Apocalypse, vous connaissez la fin de Satan lorsqu'il est jeté dans l'étang de feu. Satan avait cette lubie et a encore cette lubie qui peut se rebeller de Dieu, prendre le contrôle de sa destinée, s'émanciper de Dieu. Puis lorsqu'on lit les Écritures, tu te dis, la Bible me dit pourtant que c'est un être très intelligent. Comment peut-il être aussi stupide? Il est toujours dans l'univers de Dieu. Il ne s'inventera pas une autre dimension juste pour lui. Et Dieu nous parle de nous. Dieu nous parle de nous à travers ce personnage-là. Il nous confronte, nous, à cette attitude-là. Ce désir de s'émanciper. Et au contraire, celui qui choisit d'être serviteur de Dieu dans la Bible trouve le bonheur de se réaliser dans ce pourquoi il a été créé. Trouve le bonheur de se réaliser en cherchant la gloire de celui qui mérite la gloire. Celui, au contraire, qui essaie de s'émanciper de la gloire de Dieu et du service de Dieu, tout ce qu'il pourra récolter comme gloire, c'est la gloire qui peut venir d'un homme. Ce n'est pas grand-chose comparé à la gloire de Dieu. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Ça passe comme une vapeur. Et la Bible nous raconte l'histoire de la lignée des serviteurs de Dieu. En commençant par Adam et Ève, Dieu les crée, puis il leur confie la terre, puis il dit, « Prenez soin de la terre, multipliez-vous. Vous êtes des intendants sur la terre. » C'est l'appel de tous les êtres humains sur la terre de bien prendre soin de la terre. C'est notre service envers Dieu. Ensuite, on voit Moïse, ensuite on voit David, et ainsi de suite. Puis il y a des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs de Dieu. Puis vient Jésus-Christ, qui est le serviteur parfait. On a commencé à en parler il y a 2 semaines, mais vous allez voir le lien avec cette idée qui nous a équipés pour le service dans quelques minutes. Je retourne dans Isaïe 42. On l'a lu ce matin, on a parlé il y a 2 semaines. Vous allez voir tout à l'heure le lien, mais regardez bien Isaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Dieu le Fils se fait homme et il devient serviteur de Dieu. Et Dieu prend plaisir en Jésus-Christ, son serviteur. Dieu aime ce serviteur-là. Et pour l'éternité, le Fils va manifester la gloire de Dieu. Pour l'éternité, le Fils va honorer son Père. Et de la même manière, ce que Christ a fait en mourant sur la croix, il rend possible que nous devenions à notre tour serviteurs de Dieu, comme Jésus-Christ a été serviteur de Dieu. Lui, il a un service qui est unique. Il meurt sur la croix pour nos péchés, personne d'autre pouvait le faire. Mais ensuite, nous emboîtons ses pas et nous devenons serviteurs pour l'éternité. Je vous rappelle le passage qu'on a lu au début, Apocalypse 22, 3 à 5, « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau de Dieu sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de lampe, ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Dans les Écritures, servir Dieu, c'est absolument glorieux. C'est quelque chose de merveilleux. Il nous dit qu'on va servir Dieu et on va régner avec Christ. Ailleurs, il dit qu'on est co-héritier avec Christ. Si dans ta compréhension du christianisme, tu ne saisis pas que tu es un serviteur de Dieu et par le fait même un serviteur des hommes, des femmes que Dieu place sur ton chemin, il y a quelque chose de glorieux dans l'Évangile que tu n'as pas saisi. La gloire d'un serviteur est toujours relative à la gloire de son maître. Celui qui se sert lui-même n'aura jamais plus que la gloire d'un homme. Celui qui sert Dieu est revêtu de la gloire de Dieu et règnera avec Dieu. Est-ce que tu es un serviteur? Dans ton quotidien, est-ce que tu es un serviteur? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui se sert lui-même? La gloire qui va avec cette idée de te servir toi-même est aussi grande que toi. Moi, je fais 5 pieds 8. Je vais être mort dans quelques années. Ça va s'arrêter là. Mais moi, je ne suis pas un serviteur de Yannick. Alors, par moment, comme tous les chrétiens, pas de chrétien parfait, on le dit souvent ici, mais je suis un serviteur de Christ. Et cette gloire-là ne disparaîtra jamais. Je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, le titre de l'exposé, c'est « Doué pour servir ». Alors, on y arrive. Comment Dieu nous a-t-il doués, équipés pour le servir? Parce que Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour le servir sans nous donner ce qu'il fallait pour le servir. Et c'est là que vous allez comprendre la beauté de ce passage-là dans Isaïe 42. Doué de l'Esprit de Christ. Quand on a pensé la série « Servir pour aimer », c'était clair pour nous que dans la Bible, cette idée-là de servir, d'être au service, c'est un thème majeur dans la Bible. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui sert, ça, c'était clair. Puis évidemment, on pensait au Nouveau Testament, là, on s'est dit, OK, dans la série, à un moment, on va aller parler des dons spirituels. Quand tu arrives dans le Nouveau Testament, Dieu donne des dons pour servir l'Église, pour servir Dieu. Ce que j'aime d'une Église où on prêche la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on va vers les Écritures et on dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est ça que je dois dire. » Je n'ai pas la latitude de vous partager mes dadas. Vous en connaissez de mes dadas, hein? J'aime ça aller en forêt à certains moments, à l'automne. Vous n'entendrez jamais un sermon là-dessus. Parce qu'on est là pour prêcher la parole de Dieu. Mais j'ai été saisi quand j'ai étudié ce thème-là du service dans le Nouveau Testament. La chose la plus importante, la plus belle chose que Dieu a fait pour nous équiper pour le service, c'est qu'il nous a doués de son Esprit Saint. Dieu nous a donné son Esprit qui est venu vivre en nous. Et c'est ça qui change tout pour le service. Oui, il y a des dons spirituels. Oui, tu as des talents que moi, je n'ai pas. Oui, tu as des ressources que moi, je ne possède pas. Tu es dans des circonstances que moi, je ne connais pas. On va parler de tout ça dans quelques instants. Mais la plus belle chose que Dieu a fait pour t'équiper pour le service, c'est qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Regardez avec moi Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur. » On parle de Jésus ici, on ne parle pas de toi puis moi. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Et l'évangile de Luc, particulièrement, souligne à plusieurs reprises l'idée que lorsque Jésus a fait son ministère public, il le faisait par la puissance de l'esprit. C'est fascinant, les premières fois que tu remarques ça dans le texte, c'est là que tu te dis « Attends, c'est Jésus. » Il n'y a peut-être pas besoin, tu sais, comme moi, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais la Sainte Trinité est mystérieuse et Christ travaillait par la puissance de l'Esprit. Et puis Jésus a commencé à dire à un certain moment donné à ses disciples, « Maintenant, je vais partir. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis là. Je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul parce que je vais vous donner mon Esprit. » Dans Actes 1, versets 8 à 11, on lit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ce que je vous dis ce matin, et je crois que ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, comme Jésus-Christ est serviteur de Dieu, ce que Dieu nous a donné de plus précieux pour le servir, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous. Et pour le chrétien, quand est-ce que ça se passe, ça? Bien, c'est au moment de ta nouvelle naissance. C'est assez mystérieux, la nouvelle naissance. Hein? Il y en a que c'est très, très clair. Moi, je pense que c'est très clair. Je pense que je sais le jour, l'heure, la minute où je me suis converti, parce que le lendemain, je n'étais plus la même personne. L'Évangile était clair pour moi depuis des années, mais je résistais à Dieu. Puis il y a un moment où j'ai cédé, puis j'ai dit, « OK, Seigneur, c'est littéralement, j'ai dit, c'est toi qui run le show. » Ma vie n'était plus la même le lendemain. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est comme flou. Tu sais, il y a une période dans ta vie où tu cherches, puis là, ça s'éclaire, ou tu n'entends parler dans ton enfance. Puis là, à un certain moment donné, l'engagement devient plus clair, la réponse devient plus claire, la grâce qu'il y a dans l'Évangile devient plus claire. Donc, c'est pas clair pour tout le monde à quel moment la conversion se passe ou la nouvelle naissance se passe, mais je vais vous donner une question que vous pouvez vous poser pour déterminer si vous avez reçu le plus grand cadeau que Dieu peut vous faire pour faire de vous des serviteurs, le Saint-Esprit. Comment tu fais pour savoir que tu as reçu l'Esprit-Saint? Bien, je vous dirais le plus grand indice, le plus clair, le plus net, c'est si tu es habité d'un sentiment de reconnaissance immense pour ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Si dans ton cœur, tu dis, c'est là que se trouve ma réunion avec Dieu. C'est là que tout devient possible pour que je devienne enfant de Dieu. Et ton cœur est rempli de reconnaissance pour le sacrifice de Christ à la croix en ta faveur à toi. Tu es certainement habité du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on veut être une église qui est constamment émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, parce qu'on peut aussi attrister l'Esprit et perdre ça de vue. Mais on va être des adorateurs constamment émerveillés par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la puissance de marcher à la suite de Jésus. C'est par la puissance de l'Esprit que Christ s'est fait serviteur. C'est ce que l'Évangile nous dit, de Luc nous dit constamment. Et c'est par la puissance de l'Esprit que tu es appelé à être serviteur à ton tour. Puis c'est intéressant, je reste dans les mêmes passages. Non seulement Dieu nous donne l'Esprit qui était sur Jésus, mais il nous donne l'Esprit qui était sur Jésus pour continuer la mission de Jésus. C'est ça que le texte nous dit. Regardez, revenez avec moi dans Ésaïe 42, lorsqu'on parle de la mission. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, Ésaïe 42, 1, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Ça, c'était sa mission. Donc Dieu, 700 ans avant la venue de Jésus, il dit « Voici, je vais envoyer mon serviteur, il va venir, je vais mettre mon esprit sur lui. » Sa mission, c'est quoi? Il va annoncer la justice aux nations. C'est quoi la justice aux nations? Il faut continuer la lecture d'Ésaïe, arriver dans Ésaïe 53, plein d'autres passages, il faut continuer à lire même les évangiles. Mais c'était quoi sa mission? C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est que Jésus-Christ le juste meurt sur la croix pour des injustes comme toi et moi, afin que Dieu puisse nous déclarer justifié, gracié, pardonné. Et donc, ce serviteur reçoit l'Esprit de Dieu pour annoncer la justice aux nations. C'est ça sa mission. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Acte 1, versets 8 à 11? « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » La même mission, la même mission. Jésus-Christ est envoyé, reçoit l'Esprit, annonce la justice aux nations. L'Église croit dans l'Évangile de Jésus-Christ, reçoit le Saint-Esprit et est témoin de Jésus-Christ, de la justice de Dieu, littéralement. C'est impossible pour nous de poursuivre la mission de Christ si on ne le fait pas par la puissance de l'Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire être témoin? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire simplement aller annoncer l'Évangile. C'est beaucoup plus que ça. C'est certainement ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que constamment dans le Nouveau Testament, on voit que c'est en ressemblant à Christ que les gens vont nous demander des explications. Mais d'où ça vient cette affaire-là? Tout récemment, j'ai eu l'opportunité avec des frères d'aller aider un ami. Je commence à me lier d'amitié avec quelqu'un, puis là, il me raconte, il fait des travaux, tout ça, il est débordé, il est dépassé. Puis j'ai dit, écoute, je vais venir t'aider. Ah, il dit, Yannick, on ne se connaît pas. Tu dois avoir d'autres mondes à aider, tu sais, on commence à peine à se connaître. Je dis, non, je vais aller t'aider, puis je pense que je peux avoir deux, trois chums qui viennent en plus. Fait qu'on est débarqué là à cinq, tu sais. Puis il essayait comme de trouver une explication à ce qui se passait. J'attends, la question va venir. Ils vont me demander de rendre des comptes de l'espérance qui est en moi. D'où ça vient votre folie comme ça d'aider qu'un étranger? Vous serez mes témoins. C'est toute l'Église. C'est toute l'Église qui vit ensemble, qui prend soin, qui accueille, qui baptise, qui s'entraide, qui prend soin les uns des autres, qui prie pour les chrétiens à l'autre bout du monde qui sont martyrs. C'est l'Église qui est là pour accueillir les gens qui ne trouvent plus de place dans la société. Oui, l'Église, c'est le refuge lorsqu'il n'y a plus de refuge. Amen. Amen? C'est littéralement ça. Puis on leur annonce l'Évangile. Des fois, ils viennent ici et ils disent « Ah, il y a plein d'amour ici, je ne comprends pas trop. » Puis on fait un bout de chemin ensemble, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puis là, ils disent « Ah, je pense que j'ai commencé à comprendre. Ça fait longtemps que tu me l'expliques, mais il y avait comme une lumière qui ne s'était pas allumée encore. Le Saint-Esprit. » En train de lui faire expérimenter la nouvelle naissance. C'est absolument glorieux. Dieu nous a donné son esprit pour que nous continuions la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le serviteur, a reçu l'esprit, est allé envoyer en mission. À notre tour, on est serviteur, on reçoit l'esprit, puis on est envoyé en mission. C'est absolument glorieux. Et donc, constamment dans le Nouveau Testament, Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament vont insister pour que nous marchions par l'Esprit de Dieu. Si tu es chrétien, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais c'est possible, jusqu'à ta mort, c'est possible que par moment, tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu. On lit dans Galates 5, 16, 17, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a un combat encore en nous. On pourrait le résumer comme ceci ce matin pour être dans le contexte. Il y a un combat encore en nous de se servir plutôt que de servir Dieu et les autres. Michel a bien expliqué la semaine dernière, on n'est pas en train de dire qu'on doit être les lavettes qui se font abuser tout le temps ou quoi que ce soit, ou que j'ai plus de temps, burn out for Christ. Non, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'idée. Il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour du discernement. J'ai des vocations dans ma vie. La personne sur la terre que je suis appelé à servir premièrement est assise là. C'est mon épouse. Ensuite, ce sont mes enfants. Avant vous tous. Mais je pourrais résumer ça comme ça. Marcher par l'Esprit, c'est savoir qui je suis en Jésus-Christ et prendre plaisir à être un serviteur. Et lorsque dans ma chair, j'ai le goût de dire, « Moi, je préférerais me servir aujourd'hui. » Peut-être que tu n'es pas en train de marcher par l'Esprit. Je ne suis pas en train de dire, « Là, j'ai besoin de repos, c'est mal. Hein? » Le repos, c'est 100% biblique. Mais ce que tu considères du repos, est-ce que tu serais prêt à demander à Dieu, « Est-ce que c'est le temps que je me repose ou c'est le temps que je serve? » Puis écoutez ce que Dieu est en train de te dire. On lit dans Éphésiens 5, 18, 19, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Jésus dit ailleurs dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments comme une vigne, n'est-ce pas? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et donc, qu'est-ce que je veux faire à tous les jours pour servir par la puissance de l'Esprit? Bien, je veux me servir, on appelle ça les moyens ordinaires de la grâce. C'est quoi? Je vais lire ma Bible. Puis le Seigneur va me parler. Je vais prendre un temps pour prier. Peut-être que je sens que mon cœur s'est éloigné de Dieu. Je vais consacrer une journée à jeûner puis à prier, à lire des psaumes. Puis à dire, Seigneur, mon cœur, je ne suis plus émerveillé par l'Évangile. Il y a de quoi qui ne va pas. Je le sais. Je suis toujours en lutte entre je me sers moi ou je sers Dieu et les autres. C'est quoi les moyens ordinaires de la grâce? C'est venir à l'Église. Pour se placer sous le ministère de l'Église, par nos relations ensemble, sous le ministère de la parole, la louange avec nos enfants. C'est quoi les moyens ordinaires de la grâce? C'est le service. C'est simplement commencer à servir, puis en servant, je vais trouver la joie du service aussi. C'est quoi les moyens ordinaires de la grâce? C'est donner selon mes moyens. Ce sont tous des moyens ordinaires, mais on les appelle des moyens ordinaires de la grâce parce que le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire en nous lorsque nous sommes fidèles pour utiliser les moyens ordinaires de la grâce. Et si tu dis, j'ai l'impression que je ne marche pas par l'Esprit de Dieu, j'ai connu un temps où tout était différent à mes yeux, il y avait une joie qui était autre. Tu sais quoi? Juste aller dans la prière puis confesser ça au Seigneur, ça plaît tellement à Dieu. Il n'y a rien qui plaît autant à Dieu qu'un cœur lucide et repentant. Même celui qui n'est pas capable de changer plaît à Dieu lorsqu'il confesse à Dieu. Puis il dit, « Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. » Le plus grand don que Dieu vous a donné pour le servir, que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit Saint. Apprenez à le connaître, apprenez à l'écouter, apprenez à l'honorer. Apprenez à vous voir comme des êtres qui appartiennent à quelqu'un d'autre et qui veulent honorer cette sainteté-là qui est en communion avec votre cœur, avec votre âme. Apprenez à vous repentir quand vous attristez l'Esprit Saint. Et je termine avec quelque chose qui sera peut-être plus concret pour plusieurs. Dieu nous a doués de dons, de talents, de ressources, de circonstances. C'est très clair que lorsque tu viens à Christ, Dieu te donne des dons. Mais c'est Il y a à peu près juste ça qui est clair. C'est quoi les dons? Comment ça marche? Comment on fait pour les connaître? On a des listes qui sont certainement incomplètes. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune, pour le bien du corps. Dans Romains 12, versets 6 à 8, on lit, « Puisque nous avons tous... nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui a le don, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Si tu as reçu l'Esprit Saint, si tu es chrétien, tu l'as reçu, Dieu t'a donné des dons. Ça se peut qu'ils soient complètement différents de tes talents naturels, comme ça se peut que certains talents qui étaient là en germe explose. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis une personne extraordinairement timide. C'est la pure vérité. Si je ne connaissais personne ici, quand moi je rentre dans la pièce, à mes yeux, à moi, je suis la personne la plus insignifiante de toute la pièce. Je vis encore ça, là, tout le temps. Je m'en vais dans une foule, je ne connais personne, je me dis, boy, ça va être long. Je ne sais pas à qui je vais parler. Et donc, est-ce que avant de connaître Christ, j'avais une facilité à m'exprimer clairement? Moi, je pense que oui. Est-ce que j'étais un debater? Malheureusement, oui, c'était pas beau. Puis là, le Saint-Esprit vient en moi, puis il dit, regarde, Yannick, on va faire éclore une fleur, tranquillement. Ah, les premiers qui m'ont entendu prêcher, là, c'était pénible. Il y en a qui sont ici, là. Dieu vous doit beaucoup parce que vous m'avez toléré tellement longtemps. Ça fait 25 ans que vous m'écoutez prêcher. Mais là, je grandis dans l'Église, puis là, le Saint-Esprit fait éclore quelque chose. Donc, tes dons sont peut-être entièrement nouveaux à ta conversion. Peut-être que non. Peut-être qu'ils vont prendre une proportion inconnue jusqu'avant, progressivement. Mais tu as aussi des talents qui sont naturels. On le voit dans l'Ancien Testament, hein, ceux qui étaient doués pour la confection du tabernacle, puis ils avaient des talents. Ils sont uniques à toi, Dieu te les a donnés pour servir. Souvent, ils vont s'exprimer à travers ta vocation, tes médecins, tes mécaniciens, tes mamans à la maison, peu importe, tes professeurs à l'école, tes psychologues, tu as des talents. Et ils servent dans tes vocations, mais ils servent le corps de Christ aussi. Ensuite de ça, tu as des ressources. La Bible nous dit que certains sont plus riches, d'autres le sont moins. Ceux qui sont plus riches sont là afin que personne ne manque de rien. Intéressant, hein? Donc, on a des ressources qui sont différentes. Et j'y vais avec les richesses, mais ça pourrait être un paquet d'affaires. Et il y a les circonstances. À plein de reprises, l'apôtre Paul va se donner en exemple à travers les circonstances difficiles de sa vie, puis il dit, « Moi, je souffre ceci pour que vous soyez édifiés. » C'est vraiment intéressant. Deux des personnes qui m'ont le plus touché dans la dernière année, c'est une dame qui n'est plus en moyen de venir à l'église. Peut-être que je ne la reverrai jamais à l'église. Je suis allé la visiter dans sa résidence. Je suis encore ému juste d'y penser, tellement ça a été 2 heures de bonheur. Mais ses capacités sont limitées. Et la semaine dernière, j'ai échangé un petit message sur Messenger avec une sœur qui est en train de combattre un cancer. Elle m'a tellement édifié. C'est étrange, hein? C'est ces circonstances qu'elle ne voudrait absolument pas vivre. Mais sa foi, son attitude de service, parce qu'elle n'est pas dans l'amertume, mais dans l'action de grâce, elle se confie en Dieu, ça a été un don pour moi qu'elle m'a fait. Et donc, Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des ressources et Dieu t'a donné des circonstances. Et tout ça, Dieu te l'a donné et par la puissance de l'Esprit-Saint, tu peux servir Dieu de manière glorieuse avec ça. Peut-être que les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, tu les détestes. Tu demandes à Dieu à tous les jours qu'il change ces circonstances-là. Sais-tu quoi? Si ce n'est pas agréable, c'est 100% légitime. Nulle part dans la Bible, c'est écrit « Rendez grâce tous les jours pour votre cancer. » Ben, il dit quand même « Rendez grâce en toutes choses. » Mais tu peux prier pour que ton cancer parte. Peut-être que tu as des circonstances au travail, dans ta santé, dans ta famille, dans ta maison. C'est légitime de demander qu'elle change. Mais si Dieu les a envoyés dans sa providence divine, c'est une des ressources que Dieu t'a données pour le servir. Et si tu ouvres tes yeux pour voir qu'est-ce que ça veut dire servir dans mes circonstances, avec mes ressources, avec mes talents, avec mes dons? Et si tu demandes à l'Esprit-Saint de te fortifier, si tu marches rempli de l'Esprit, tu vas être un serviteur, une servante extraordinaire. Souvent, les chrétiens, on garde une pensée du monde qui nous dit que la valeur de notre service est équivalente à la grandeur de nos dons et de nos talents. C'est normal qu'on aille là, on cherche toujours à placer notre identité dans ce que nous, on est capable de réaliser. Donc, cette semaine, je prêche, dimanche. Demain, je peux avoir un anévrisme, puis capable de parler, silencieux jusqu'à ma mort. Il y a des pasteurs qui tapent des moyennes dépressions. Hein? C'est un rôle privilégié d'être pasteur, puis d'avoir des gens qui les écoutent comme ça. Puis là, ils se retirent du ministère, puis là, ils se tapent une dépression. Ou ils ont des problèmes de santé, puis comme leur valeur est perdue. C'est tellement triste. Parce qu'il n'y a rien qui change. C'est Dieu qui donne les circonstances, et il n'y a rien qui change dans ma valeur. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne comme moi, Dieu t'a équipé pour le servir. Peut-être que tu n'as pas découvert encore tous les domaines où tu peux le servir. Mais si tu es chrétien, tu as le même esprit en toi qui était sur Jésus. Tu as le même esprit en toi qui était sur Jésus. Et si pour toi, lorsque tu penses au service, ce que tu vois, c'est une corvée, c'est un sacrifice, c'est un dur labeur, je te suggère que tu n'es peut-être pas habitué de marcher par l'esprit, rempli de l'esprit. Parce que si tu marches rempli de l'esprit, tu vas voir la joie et la grâce de servir. Avec sagesse, tu vas garder du temps pour te reposer. Jésus le faisait. Mais tu vas vivre la joie de servir. Et il n'y a pas de plus grand bonheur, il n'y a pas de plus grande gloire pour un être humain que d'être un serviteur de Dieu et un serviteur des hommes qui l'entourent. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, je vous ai dit au début de l'exposé, mon ambition, c'est que vous puissiez associer dans votre esprit et dans votre cœur, serviteur, éternité, glorieux. Dans l'éternité, on va célébrer l'agneau immolé, le serviteur parfait de Dieu. C'est intéressant, hein? Il est présenté comme l'agneau dans le passage qu'on a lu tantôt dans l'Apocalypse. Ça veut dire que dans l'éternité, ce qui va nous être rappelé, c'est son sacrifice sur la croix. C'est son service pour Dieu et les hommes. Parce que son service est glorieux. Et si tu te sers toi-même, tu vas voir la gloire d'un homme, la gloire d'une femme. Ça va s'arrêter là. C'est très limité, c'est très éphémère. Mais si tu sers Dieu, tu vas être revêtu de la gloire de Dieu et tu vas régner avec Jésus-Christ pour l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence encore une fois ce matin. Le cœur rempli de reconnaissance de ce que tu nous as fait connaître ton œuvre à la croix. Tu es le serviteur parfait, Seigneur. Tu es le serviteur par excellence. Aucun homme, aucune femme ne t'est comparable. Mais Seigneur, ce matin, je veux confesser que souvent, je limite ce que tu peux faire à travers moi parce que je doute de la puissance de ton esprit qui habite en moi. Je doute de tes promesses, je doute de tes paroles. Ou encore à d'autres moments, j'attriste l'esprit, je ne marche pas rempli de l'esprit et j'ai envie de redevenir un serviteur de Yannick. Me servir moi-même, servir mes ambitions, servir ma propre gloire, Seigneur. Seigneur, transforme à jamais cette Église. Transforme-nous afin que cette vision soit claire devant nos yeux, celle de la gloire des serviteurs de Dieu, celle de la gloire des serviteurs de Christ, Seigneur. Afin que nous soyons des témoins de l'Évangile, non seulement en annonçant l'Évangile, mais en portant le fruit de l'Esprit constamment dans nos relations ensemble en Église et dans tous nos rapports avec la communauté qui nous entoure, avec le monde qui nous entoure. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Viens nous transformer à ton image. Viens transformer cette Église à ton image afin que ta gloire, Seigneur, soit manifeste devant tous. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande, Père. Amen. Amen.